lire.
Je te l'ai dit plus de 20 fois.
Quand vous lisez, ne laissez pas l'auteur décider pour vous.
Non, c'est à vous de décider.
FDL, la fréquence des loisirs, c'est l'instant fréquence des lectures pour les fans de lecture. Aujourd'hui, c'est la chronique manga présentée par Françoise. Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vous propose deux mangas tout juste sortis d'impression, tout nouveaux. Le premier s'appelle Sweet Concrete. Il est de Sanshiro. Et le deuxième, eh bien, c'est le tome 3 de Togenanki dont je vous ai parlé au début du mois de mars. Ces deux mangas sont aux éditions Kana. Sweet Concrete, en vrai, Sweet Concrete sera dans vos librairies demain, 15 avril. Hein. Alors je commence par celui-ci parce que il m'a bien plu. C'est un tome 1, il vient de paraître. On va parler un petit peu de l'auteur. L'auteur s'appelle donc Sanshiro. Est-ce qu'il s'appelle vraiment Sanshiro ? Eh ben non, pas vraiment, puisque c'est un mangaka français. Et oui, c'est possible. Son vrai nom est Rodolphe Balajas. Alors bon, personnellement, je trouve qu'il a bien fait de prendre un pseudonyme. Hein. Sanshiro, ça fait classe. Sinon, il est né en 1995 à Colombes. Et alors, pour parler un petit peu de lui, dès son plus jeune âge, il a baigné dans les Pokémon et Yu-Gi-Oh, vous voyez ce que je veux dire. Il a commencé à dessiner vers l'âge de 8 ans pour ne plus jamais s'arrêter. Sanshiro ne nous parle pas de ses études, non, il préfère nous parler de ses dessins. À 15 ans, il s'inscrit dans des forums de bandes dessinées pour apprendre et pour inlassablement dessiner, parce qu'il dessine, il dessine et il ne s'arrête jamais. Il se lance comme illustrateur, du coup, il se lance comme illustrateur freelance. Puis il fait plein de petits boulots hein, pour qui vont l'aider à vivre, hein, sans l'empêcher de toujours dessiner. Et puis, lui viennent ses premières idées de scénario. De là va naître Sweet Concrete, dans sa petite idée de scénario. Donc, ça fait son chemin dans ses dessins. Mais il continue les petits boulots et puis il continue à rester dans ce monde de la bande dessinée. En 2018, du coup, lors d'une soirée dans la librairie Le Renard Doré à Paris, c'est une librairie qui est un peu spécialisée dans les mangas, il rencontre l'éditeur des éditions Kana. Il lui envoie son ébauche de manga sur Sweet Concrete, son scénario, et ça en résulte la signature d'un contrat. Et voilà, la magie a fonctionné. Alors personnellement, franchement, je suis enchanté de pouvoir tenir entre les mains un manga dessiné et scénarisé par un Français. Ça fait plaisir. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, non pas par chauvinisme, hein, soyons clairs. C'est juste parce que, en fait, ça prouve que les mangas sont vraiment une belle réussite au-delà de toute frontière. Car, disons-le, les frontières n'existent pas quand on est un lecteur de manga. Voilà, allez, on fait une pause en musique et je vous parle ensuite de Sweet Concrete et de son superbe scénario.
Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps trois mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille. Et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont. Pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y'aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongé dans les prés. Y'avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupable, à moitié défroqué, 100% misérable. Alors voilà petit l'histoire de l'être humain, c'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou, qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires.
Suite concrète de Sanshiro, notre mangaka français. Alors, Suite concrète, c'est l'histoire d'une jeune policière qui se prénomme Asa. Un peu beaucoup tête brûlée, surtout éprise de justice et de vérité dans une ville où la vérité se cache par tous les moyens financiers. Dans cette ville, ou dans cette cité qui se nomme Ciel Azur, c'est une ville, vous savez, un peu mégapole, comme nos grandes villes, vous voyez, hein, nos très 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 grandes villes, mais en plus grand encore. Au milieu de cette cité, de cette mégapole, il y a ce qu'ils appellent une citadelle. C'est un lieu entouré d'eau, comme une petite île au milieu de la mégapole, sauf que la citadelle est enfermée dans une brume et que son accès est quasiment impossible, à moins de trouver un passeur. Et puis qui voudrait y aller d'ailleurs, hein ? C'est très cher pour y rentrer et c'est quasiment impossible d'en sortir. Donc, entre les deux, il y a cette eau, le No Man's Land. Les uns ne connaissent pas les autres et en fait, on ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur de cette citadelle. Asa, nous là, on est dans la mégapole hein, au début. Asa, dont le père est mort lors d'une enquête au sein de la cité, décide d'aller elle-même mener l'enquête. Enfin, elle décide, disons qu'elle tombe par hasard sur l'arme de service de son père, et cette arme, ce pistolet, semble imbibé de magie. De magie. Ah ben bon, dans la mégapole, comment se fait-ce ? Et mieux que cela, il permet d'ouvrir une porte cachée permettant d'accéder à la citadelle. Ah bah tiens. Et là, ça devient vraiment intéressant, parce que ça bascule complètement dans la folie. Au début, on est dans une mégapole, vous savez, une ville lambda, quoi, avec les bons, les méchants, les ripoux, les honnêtes, enfin, vous voyez, tout le truc habituel qu'on connaît un peu. Et puis, Asa va dans la citadelle, et là, on tombe dans un autre espace, un autre monde. Pas mieux, hein, le monde, soyons clairs, hein, c'est pas mieux. Il y a toujours le clan des gentils, toujours le clan des méchants, tout pareil, sauf que là-dessus, il y a une petite dose de magie, et ça enchante vraiment l'histoire. Alors, ce premier tome peut sembler un peu embrouillé, mais je pense que l'auteur nous fait découvrir en un tome l'ensemble de ses personnages. Voilà, on a tout nous arrive d'un coup, là, et en fait, il nous plonge dans la trame du monde qu'il a créé, comme pour nous y faire vivre et nous en faire connaître d'un coup comme ça directement toutes les subtilités. Alors on va découvrir les trois personnages qui vont certainement faire la trame de la série. Il y a Asa, donc la jeune policière, mais aussi la petite Connotte, une petite gamine plutôt débrouillarde, hein, très mignonne, dans ce monde de clans. Et enfin, il y a Diego, une sorte de mercenaire au grand cœur, hein, qui va aider Asa dans sa quête de vérité. Alors j'adore Asa, hein, parce qu'elle a du caractère, qu'elle fonce, et tant pis pour les risques qu'elle prend, elle en veut. Il y a la petite Connotte, Elle est là pour nous attendrir et ça marche, elle est mignonne quoi, c'est une petite maline. Et Diego, donc ce mercenaire beau gosse de l'histoire, avec lui c'est un peu le suspense, on ne sait pas trop ce qu'il veut vraiment. Voilà, donc cette histoire, Sanshiro a su trouver, je dirais, tous les ingrédients d'une aventure qui selon moi n'a pas fini de nous surprendre. Le dessin est étoffé, un peu lourd parfois, je dirais débordant peut-être, et extrêmement énergique, voire dynamique. On s'y perd un petit peu, c'est vrai, mais il a le mérite de se laisser relire avec plaisir pour replonger dans la baston. Ah oui, parce que, bon, c'est un shonen, hein, plein de bastons qui s'adressent aux garçons, mais aussi aux filles qui ont du caractère. Je vous souhaite une bonne lecture. On se retrouve après une pause et on parle de Togenonki. A tout de suite.
Dans ma ville, on traîne entre le béton, les plaines, dans les rues pavées du centre, autour des magasins fermes. On passe les week-ends dans les zones industrielles, près des zones pavillonnaires où les baraques sont les mêmes. Ma ville est comme la première copine que j'ai jamais eue. Je peux pas la quitter, pourtant je passe mon temps à cracher dessus. Parler du beau temps serait mal regarder le ciel. Je la déteste autant que je l'aime, sûrement parce qu'on est pareil. On a traîné dans les rues, tagué sur les murs, skaté dans les parcs, dormi dans les squares, vomi dans les bars, dansé dans les boîtes, fumé dans les squats, chanté dans les stades, traîné dans les rues, tagué sur les murs, skaté dans les parcs, dormi dans les squares, vomi dans les bars, dansé dans les boîtes, fumé dans les squats, chanté dans les stades. J'ai tellement traîné dans les rues de Caen, avec une bouteille où tout le monde a bu dedans. Entre deux mondes en suspens, criminel la façon dont je tuais le temps. Après 22h tu croises plus de gens, comme si on était encore sous les bombardements. T'entendras que les flics et le bruit du vent, quelques mecs de la fac en troisième mi-temps, qui devraient pas trop s'approcher du bord, quand ils vont se terminer sur le port. Dans les quelques bars qui servent encore, où y'a des clopes et des anglais ivres morts. 5h du mat, la queue dans les kebabs en sortie de boîte. Tu peux prendre une pita ou prendre une droite, ou alors tu peux prendre le premier tram. Et si jamais tu t'endors, tu te réveilleras sur les bords de la ville, là où les centres commerciaux sont énormes, où on passait les samedis en famille, où j'aimais tellement me balader, même quand on avait que dalle à acheter. Youhou, ouais. Le caddie des parents ralentit devant Pizza dell'Arte, pas loin du magasin de jouets où je tirais des chevaliers, près du pont où ma grand-mère m'emmenait lancer des avions en papier, où tu peux voir les grandes tours des quartiers, où l'architecte a cru faire un truc bien. Si je rappais pas j'y serais jamais allé, parce qu'on se mélange pas tant que ça là d'où je viens. Après y'a des champs, y'a plus rien. Si tu vois de la fumée quand tu reviens, c'est que dans les usines pas très loin, on se cale sinon s'abîme, on fait du carburant pour la machine. À côté des pavillons rectilignes, où on pense à ce que pense la voisine, où on passe les dimanches en famille, où on fabrique du blanc fragile. Longe le canal, prends le périph', t'arrives à la salle où j'ai raté des lay-ups décisifs. Pas loin d'un coin perdu où les filles se prostituent, au milieu des grues, là où y'a les bus qui t'emmènent à la mer en moins de 20 minutes, où les parisiens nous trouvaient tellement nuls, où tu vois l'Angleterre derrière la brume. Passe devant l'hôpital qu'on voit de partout, pour nous rappeler qu'on y passera tous et tu seras de retour en ville. Où les bourges font les courses et les punks mendient, où y'a des clochards dont tout le monde connaît les noms. J'ai vu Gigi s'ouvrir les veines à coups de tesson devant l'épicerie Zec qui est toujours ouverte près du château. C'est doux et c'est légende urbaine. J'ai fait des mariages, des enterrements dans les mosquées, les églises et les temples sous un crachin normand. Elle est même pas foutue de pleuvoir correctement, ma ville au sang clocher. À chaque fois qu'ils détruisent un bâtiment, ils effacent une partie de mon passé.
Vous parler de Togenonki, Togenonki ou la légende du sang maudit. C'est un manga de Yura Urushi Bara. Je jubile de vous en parler. D'ailleurs, vous pouvez aller écouter mon sentiment pour les deux premiers tomes. C'est dans le podcast du mois de mars. Hein. Là, je prends mon temps, j'en parle pas mal hein, de ces deux premiers tomes. Je donne toute mon opinion avec sincérité. Bon, alors, je vous fais un résumé très, très rapide. J'avais vraiment aimé et j'attendais la suite avec impatience. Alors, Togenanki, c'est l'histoire de deux bandes rivales. L'une des bandes serait les gentils, la bande des Momotaro, et l'autre serait les méchants, les Oni. Alors, je mets au conditionnel, hein, parce que, bien sûr, rien n'est jamais acquis en matière de bonté, vous le savez. Donc, ces bandes rivales sont cachées des vrais humains et ont pour chacune un pouvoir bien particulier qui les aide à s'entretuer. Alors, j'avais pas trop accroché sur le tome 1, et puis j'ai pas lâché le tome 2, et je suis totalement accro au tome 3. Bon, moi j'aime bien les histoires un peu dingues, avec de la fiction, de la magie, et surtout pas mal d'action. Là, on rentre vraiment dans l'action, avec quelques petites subtilités, et quelques petits moments terribles quand même aussi. Hein. Je vous raconte un petit peu l'histoire. Alors, toute la classe de Shiki, c'est notre personnage principal, hein, est venue découvrir une base secrète qui se trouve être un des quartiers généraux de leur clan, des Oni. Là, ils vont devoir aider l'unité de soutien, c'est-à-dire l'infirmerie où sont soignés tous les blessés. Car dehors, les combats entre Oni et Momotaro font rage et il semblerait que ce soit les Momotaro qui, à force d'imagination cruelle et barbare, gagnent la partie. Ils sont tout simplement maléfiques, hein, les Momotaro, vous allez voir, on va en parler. Et du coup, les combats vont se déplacer vers la base secrète où Shiki et ses compagnons portent secours aux blessés. Mais voilà, ils vont finir par se retrouver au cœur des combats. Et je ne vous en dis pas plus, parce que là, ça devient intéressant. Parce que les combats, ils sont durs. Hein. Alors, pour te dire, aller jusqu'au bout, dans ce troisième tome-là, on tombe un peu dans l'horreur. Bah ouais, faut le dire, hein. Mais pas trop quand même, pas trop. Mais quand même, un peu. Alors, il y a un peu moins de baston, mais beaucoup plus de méchanceté, voire de cynisme. Et là, pour le coup, l'auteur nous montre bien que les gentils ne sont pas très 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 gentils. Ils sont même pas du tout gentils. Je dirais même que je les trouve carrément pervers, ceux qui doivent être gentils. Du coup, ça fait un peu peur pour la suite. Et ceux qui doivent être méchants, ben, finalement, ils sont carrément sympas. Et à choisir, je préférerais être sauvé par eux. Ils ont de l'empathie, ils s'entraident, ils sont marrants aussi. Enfin, voilà, ils sont cool, quoi, faut le dire. Donc, si vous n'avez pas lu le tome 1 et 2, ben, c'est sûr, je vous les conseille, car j'aimerais bien en débattre avec vous. Concernant ce tome 3, je suis juste un peu déçu. Oui, un tout petit peu déçu, car la fin est un peu rapide. Et ce qui m'amène encore une fois à espérer le tome 4. Non mais je pense qu'ils font exprès hein, de nous laisser dans le suspense comme ça. C'est carrément dingue, ces mangas, c'est fou. Allez, à bientôt, à la semaine prochaine.